L'actu des oubliés. Saison 5. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans l'actu des oubliés. En ce début d'année, nous consacrons deux épisodes à la Corée du Sud, où le peuple est en train de faire tomber le président d'extrême droite. En plein hiver, avec dynamisme et détermination collective, des centaines de milliers de personnes tentent encore aujourd'hui de faire plier le pouvoir, comme une réponse au néolibéralisme autoritaire qui gangrène la planète. Nous aurons avec nous Christophe Godin, maître de conférences en sciences politiques, qui vit à Séoul depuis 17 ans.
Il y a une atmosphère de légère folie dans la rue. Pour aller très vite, on peut aller nulle part parce qu'il y a des manifestations partout. Tout est bloqué et c'est d'autant plus remarquable que l'hiver coréen est glacial. C'est un truc très diffus. Il n'y a pas d'organisation là derrière. Et quand on voit ces gens qui vont avec leurs enfants, par exemple, ou des gens âgés, mais ça demande une détermination folle. Non, mais c'est remarquable. Un courage physique dont ces gens ont fait preuve, cette union populaire, ce courage et cette discipline collective, donc c'est un truc formidable.
Yoon Suk-yeol est élu d'extrême justesse en 2022 face à deux candidats de gauche. Avec lui, c'est le retour au pouvoir des conservateurs, héritiers de la dictature après 5 ans d'alternance. Son électorat est principalement constitué de personnes âgées, nostalgiques de la dictature, et d'une jeunesse masculine réactionnaire et anti-féministe. Dans les vingtenaires, près de 60% des hommes l'élisent contre seulement 35% de femmes, et les plus de 60 ans votent pour lui à près de 70%. On écoute Christophe Godin.
Dans les médias occidentaux, il est souvent présenté comme un président conservateur, alors qu'en réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus extrême que ça. Ce parti-là, qui s'appelle en coréen donc Énergie du Peuple, c'est le parti qui est directement héritier de la dictature militaire, avec aussi souvent une forte dimension d'intégrisme religieux des églises évangéliques importées d'Amérique. D'abord parce que la dictature militaire poussait vers ces églises-là par anticommunisme, et ensuite parce que, à mesure que la société coréenne est de plus en plus compétitive et de plus en plus atomisée, ces églises évangéliques-là, elles ont offert une espèce de refuge à tous les défaits de la société. Et en réalité, pour comprendre ce qu'est Yoon Suk-yeol, il est aussi à comprendre comme une partie de cette grande vague des populismes d'extrême droite que vous retrouvez aujourd'hui dans toutes les démocraties, finalement. Sa base électorale, d'une part, c'est une base électorale âgée. Chez les plus de 60 ans, son parti représente plus de 70% des voix. Et c'est aussi une base électorale, c'est la nouveauté, beaucoup plus jeune, puisqu'il a été élu sur une campagne spécifiquement antiféministe. L'antiféminisme, c'est le cœur de sa rhétorique.
La jeunesse coréenne, en particulier celle des classes populaires, est en effet confrontée à des difficultés majeures liées à la fois au traditionnalisme de la société et à la grande précarité induite par le capitalisme contemporain. C'est sur ces frustrations et sur le rejet des réformes entreprises par le gouvernement précédent, notamment en faveur de l'égalité des genres, que se construit un misogynisme porté au rang d'idéologie par Yoon Suk-yeol.
Ce sont des sociétés où on quitte ses parents quand on se marie. En Asie, par exemple, la plupart de mes étudiants continuent à vivre avec leurs parents. Ce que ça veut dire, c'est que quand vous n'avez pas de travail stable, et donc si vous êtes enfermé dans la précarité, vous ne pouvez pas vous acheter une maison, et donc vous n'avez pas d'accès à une sexualité adulte. En coréen, vous avez même un mot pour ça, on appelle ça « opposédé ». O, c'est le chiffre 5, po, pogi, c'est abandonné, et cédé, c'est la génération. La génération aux 5 abandons, ces 5 abandons, ce sont dans l'ordre le travail stable. Comme vous n'avez pas de travail stable, vous n'avez pas de maison. Comme vous n'avez pas de maison, vous ne pouvez pas avoir de relation amoureuse, vous ne pouvez pas vous marier et vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Et ces abandons se suivent comme une rangée de dominos, dans la mesure où c'était vraiment ça qui ouvrait l'accès à la vie adulte. Pour ces hommes-là, vous avez une image de vous-même qui est renvoyée, qui est tragique. Parce qu'il faut bien comprendre que dans les classes supérieures, les gens continuent à gagner de l'argent, à acheter des maisons, et ils continuent à avoir une vie sexuelle. C'est les classes populaires qui abandonnent la sexualité. Les manifs antiféministes que vous avez à Séoul, dans le centre-ville, parce qu'elles sont souvent couplées avec ces machins évangéliques, c'est les mêmes gens. Les jeunes hommes en question, ils n'appartiennent pas aux classes favorisées de la société. Vous avez un phénomène cumulatif où les inégalités de classe se cumulent à une chasteté forcée. C'est sur ce terrain-là que joue le parti de Yoon. C'est un truc toxique. C'est un phénomène de panique généralisée. De toute façon, les partis fascistes prolifèrent toujours sur une frustration quelconque. Ce qui est important dans ce cas-là, c'est que c'est une frustration qui est directement sexuelle.
Cette situation se couple à la pression professionnelle inhérente à la société coréenne. Dans les 20 dernières années, le marché du travail s'est considérablement transformé en faveur d'une flexibilité extrême type ubérisation. Le droit du travail a toujours été très limité en Corée durant les années d'industrialisation à marche forcée. Mais le monde du travail espérait des améliorations durant les années 90 avec sa participation aux luttes pour la démocratisation. Or, quand les libéraux arrivent au pouvoir sur fond de crise économique, ils obtiennent un prêt du FMI à condition de flexibiliser le marché du travail. La transition est violente. La vague de licenciements entamée durant la crise ne cesse jamais et devient même un modus operandi de management humain. C'est la loi de l'intérim. Horaires indécents, contrats courts, grande précarité et insécurité financière. Les entreprises qui licencient avant le 12e mois de travail n'ont par exemple pas à payer d'indemnité de licenciement. Nombreuses sont celles qui pratiquent le licenciement au 11e mois et qui réembauchent immédiatement après. Les femmes sont les premières concernées par ce travail fragmenté. Le métier de la livraison est un témoin majeur de cette transformation et c'est durant la crise du Covid que l'iceberg émerge. Plusieurs drames surviennent, des livreurs et des livreuses décèdent d'avoir trop travaillé et les cérémonies funéraires sont transformées en manifestations politiques. 500 personnes par an meurent tout simplement de surmenage. S'ensuit un mouvement civique où les consommateurs affichent sur leurs portes « c'est pas grave si vous êtes en retard ». Puis les chauffeurs et chauffeuses se mettent longuement en grève à l'automne 2022.
The workers' final processing here overnight as the discussions between the three parties are set to continue until Wednesday.
Les sociodémocrates ont beau faire quelques réformes d'importance en baissant notamment le temps de travail, les avancées sociales ne bénéficient que trop peu aux plus précaires. La hausse du salaire minimum ayant ainsi été suivie d'une hausse des loyers d'égale intensité, elle ne fut prolifique que pour les grands propriétaires et les promoteurs immobiliers. Du prolétariat coréen, une critique massive émerge contre ces élites, la torture de l'espoir. Elle consiste à faire faussement sentir à la classe laborieuse que sa situation va s'améliorer. Celle-ci ne fait finalement qu'enchaîner les frustrations et les déceptions.
Le gouvernement de gauche social-démocrate qu'ils ont eu entre 2017 et 2022, là, ils ont vraiment fait ce qu'ils ont pu. Et du coup, leur échec, parce que malgré tout, ça a été un échec, même s'il y a eu des avancées, ça a eu un effet démobilisateur gigantesque. Dans le genre social-démocrate, sans remettre en cause la logique même du capitalisme, je ne vois pas tellement ce qu'on pouvait faire de mieux. C'est ça qui est terrible. Ce n'est pas comparable, par exemple, à Hollande, qui n'a même pas essayé. La gauche coréenne, elle a quand même augmenté le SMIC d'un tiers. Et le SMIC en question, rapporté au coût de la vie, n'était pas ridicule. Le système de santé en Corée, il n'est pas du tout dans l'état de la France. La Corée a une assurance, une sécurité sociale qui est efficace, et ils ont aussi mis en place des mesures assez radicales pour imposer des quotas d'embauche pour une égalité stricte entre les hommes et les femmes. 50% d'hommes, 50% de femmes à embaucher dans les postes qui s'ouvrent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, premièrement, ces mesures, sur le long terme, elles ont eu un effet assez limité. En réalité, en Corée comme partout, la tragédie qui se passe, c'est que vous avez une ubérisation tous azimuts. Donc les gens qui sont le plus fragilisés dans la société n'ont pas bénéficié des mesures du gouvernement Moon parce que cette gauche, qui est une gauche social-démocrate, n'a sûrement pas pris la mesure de ce qui est en train de se passer dans la société. Vous aviez une colère gigantesque vis-à-vis des insuffisances de ces mesures et en même temps, comme vous aviez des jeunes hommes qui devaient laisser la place aux jeunes femmes, c'est ça qui a, à gauche, qui a eu un effet démobilisateur gigantesque. et à droite qui a ouvert la voie à ces populistes cinglés.
Or, à droite, le discours pro-travail continue de gangréner la société. Le président Yoon clame régulièrement que les Coréens et les Coréennes devraient travailler davantage. Les journaux conservateurs retournent le problème en demandant pourquoi l'on priverait les gens de travailler plus, alors même que les salariés refusent de prendre l'entièreté de leur congé de peur de perdre leur emploi. C'est dire la pression qui pèse sur les travailleuses au quotidien et tout au long de l'année. L'un des premiers mots d'ordre des mouvements syndicaux est tout simplement « laissez-nous dormir ». Le président, lié au grand patronat, pose par ailleurs son veto sur une loi qui impose des augmentations de salaire et une amélioration des conditions de travail. En 2023, Yoon Suk-yeol propose même d'étendre la durée hebdomadaire du travail de 52 à 69 heures. La raison invoquée, la baisse des exportations et le ralentissement économique que subit le pays depuis la pandémie. Début juillet 2023, les syndicats appellent immédiatement à 2 semaines de mobilisation et réclament par la même occasion des hausses de salaire. L'autoritarisme et la répression judiciaire sont dénoncés, ici par un syndicaliste dans une manifestation. Le gouvernement Yoon utilise les procureurs utilisent la police et la police utilise des autorisations d'exception pour nous arrêter. 16 syndicalistes ont été arrêtés et plus d'un millier ont fait l'objet d'enquêtes. L'administration du gouvernement Yoon nie les droits fondamentaux du travail. Le président s'illustre par la violence de son discours envers les groupes féministes et les organisations syndicales qu'il traite de gangsters. Il considère les grévistes comme de dangereux personnages, communistes, et pourquoi pas liés à l'ennemi nord-coréen. Ces derniers dénoncent la nouvelle administration, l'accusant de harceler les syndicats et de vouloir s'en prendre à l'existence même du syndicalisme. De fait, comme l'explique Marie-Orange Rivet sur France Culture en juillet 2023, pour le parti au pouvoir, être anticapitaliste revient à être pro-nord-coréen, et donc à violer la loi de sécurité nationale. C'est ainsi que de plus en plus de syndicalistes sont incarcérés. La jeunesse est particulièrement présente dans la lutte. Elle se mobilise depuis de nombreuses années pour différentes raisons, et la personnalité du président Yoon exacerbe la colère. D'une part, elle critique ouvertement un mode de vie entièrement dédié à l'activité professionnelle et à la culture d'entreprise, qui consiste par exemple à ne pas prendre ses vacances pour assurer la compétitivité de la boîte. On parle désormais du sacrifice des corps pour dénoncer la violence patronale. Les rejets par les jeunes de leur propre pays se ressent notamment dans la culture. L'émigration est aussi importante et le taux de fécondité n'est plus que de 0,65 enfants par femme. Ceci dit, la critique à l'intérieur du pays se développe. Les luttes sont permanentes et soutenues, à l'image du mouvement féministe qui a obtenu quelques avancées ces dernières années. Le code de la famille qui imposait aux femmes la soumission à leur père, frère puis mari tout au long de leur vie a ainsi été aboli. Le droit à la contraception et à l'avortement ont été élargis et l'espace d'expression des minorités de genre et des personnes LGBT n'est plus confiné à la clandestinité. En novembre dernier, le président Yoon Suk-yeol incarne donc déjà une figure détestable pour un nombre croissant de secteurs de la société. C'est alors que sont révélés des enregistrements d'appels téléphoniques datant de 2022. Il se vante d'avoir demandé et obtenu la nomination de Kim Yong-sun comme candidate de son parti aux élections législatives. Un pistonnage en règle, mais qui, dans la culture coréenne, ne passe pas. Le Parti démocrate décrète la mobilisation pour exiger la démission du président. Et le 2 novembre, le pays se mobilise massivement. Cho Ji-hoon, dans la manifestation, s'insurge.
C'est tellement honteux, tellement embarrassant. Nous sommes ici pour faire entendre la voix du peuple, afin d'avertir le gouvernement que l'on ne restera pas les bras croisés.
En cet automne 2024, une bataille a lieu au Parlement, où l'opposition détient la majorité. Celle-ci refuse de voter le budget proposé par le président Yoon pour l'année 2025. Face à l'entrave, celui-ci va échafauder un plan pour tenter d'écarter le Parlement de l'exercice du pouvoir. Le 3 décembre, il déclare la loi martiale en affirmant que l'opposition est une force hostile à l'État, ayant l'intention de renverser le régime et qu'il compte s'en débarrasser.
Les principaux mots-clés de la sphère complotiste et néo-fasciste figurent dans sa déclaration. Il évoque une dictature législative désireuse de renverser l'ordre démocratique libéral. Il veut reconstruire la Corée libre qui s'enfonce dans les profondeurs de la ruine nationale, protéger les libertés et la sécurité du peuple contre des forces anti-étatiques qui tentent de renverser le système. Sans les citer, il fait référence aux communistes qui menaceraient l'existence du pays depuis l'intérieur pour le livrer à la Corée du Nord. Yoon Suk-yeol ordonne ainsi aux militaires de descendre dans les rues de Séoul. Toutes les activités politiques sont interdites. Le Parlement est placé sous scellé et survolé par des hélicoptères. On écoute Christophe Godin.
Dans les médias coréens au quotidien, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on parle très peu de la Corée du Nord. Parce que tout simplement, c'est toujours la même chose et les gens zappent. Cette rhétorique conspirationniste confuse, c'est un truc que vous voyez traîner depuis 5 ou 10 ans sur l'Internet coréen et qui fait surtout suite aux tentatives du dernier président donc de centre-gauche, Moon Jae-in, pour se rapprocher de la Corée du Nord. Vous avez eu des rumeurs qui racontaient que Moon Jae-in était un espion à la solde du Nord. Vous avez eu des théories du complot complètement folles. Il faut savoir que cette base évangélique, conspirationniste, c'est des gens qui manifestent tous les week-ends dans le centre de Séoul. Et Yoon passe son temps à faire signe à ces gens-là. Quand il a pris la parole, donc c'était un mardi soir pour annoncer la mise en place de l'état d'urgence, on retrouvait immédiatement leur rhétorique. Beaucoup même de Coréens ne comprennent pas. Le soir, quand il a déclaré l'état d'urgence, il a parlé de force anti-étatique. Moi, j'étais sorti. Les gens autour de moi se montraient le message sur leur téléphone, la vidéo de ce qu'il était en train de faire, et les gens se demandaient « mais qu'est-ce qu'il raconte ?»
Dans la foulée, l'opposition s'insurge. Elle juge la loi martiale illégale et invite le peuple à se réunir devant le Parlement. L'appel est entendu. Des milliers de personnes se massent et tentent de se rapprocher du bâtiment gardé par la police.
Le plan de Yoon était de bloquer le Parlement immédiatement, qui est en plein centre de Séoul, mais qui est un peu difficile d'accès parce qu'il est sur une île. Parce que le fleuve Han qui coupe Séoul en deux, c'est un fleuve qui doit faire facilement 2 km de large. Le Parlement est en fait assez facile à bloquer. Si vous bloquez les deux ponts qui permettent d'accéder à l'île, et aussi de bloquer les grands médias, puisque l'armée a été envoyée dans les grands médias. Ensuite, l'opposition a appelé les gens à se rassembler devant le Parlement. Et donc, vous avez des images d'ailleurs, pour le coup, très amusantes, où vous voyez les parlementaires. Vous les voyez qui escaladent des portails, qui passent par l'escalier de service. Il y en a un qui s'est faufilé par les cuisines. Des assistants parlementaires qui bloquaient les accès pour ralentir l'armée. Mais les gens étaient eux-mêmes surpris de l'ampleur de la réaction. Les gens se sont rendus par tous les moyens possibles, par le métro, à pied et ainsi de suite, pour défendre leur démocratie.
Des Black Blocs se forment et s'équipent des masques à gaz qui sont en permanence disponibles dans les stations de métro en cas d'attaque de la Corée du Nord. Munis de boucliers faits de bidons de métal coupés en deux et tagués de AKAB et de 13-12 en peinture blanche, les émeutières allument des feux dans les avenues. Les forces de l'ordre sont attaquées avec des feux d'artifice. Et lorsqu'elles tentent de répliquer, la police est aveuglée par les faisceaux verts des lasers. Les palais de gaz lacrymogènes sont eux rapidement neutralisés par des équipes qui s'en saisissent et les glissent dans des bidons remplis d'eau. Le journal Hankyore écrira le lendemain. Dans tout le pays, les Coréens ont été déconcertés et enragés par cet ordre de loi martiale pris à l'improviste. Et de nombreux groupes civiques et syndicaux ont immédiatement dénoncé la décision du président. Un podium de fortune a été dressé devant la porte du Parlement. L'une des nombreuses personnes présentes a pris le micro et a déclaré « Nous ne pouvons pas retourner dans l'ombre de la dictature ». Les députés parviennent à entrer en force dans le Parlement. Le chef de l'opposition se filme même en train d'escalader les grilles. L'objectif, être suffisamment de députés à se réunir pour contrer la mise en place de l'état d'urgence. Durant la nuit, c'est l'armée qui tente de pénétrer dans le Parlement. Des hélicoptères atterrissent sur le parvis et des hommes en armes se dirigent vers le bâtiment autour duquel la foule est encore présente. Une députée lutte contre un soldat qui la mettait en joue en tentant de lui arracher son fusil d'assaut. « C'est une honte », clame-t-elle. À l'intérieur, les employés utilisent les extincteurs contre les soldats pour ralentir leur progression vers la salle principale du bâtiment. On ne l'apprendra qu'à la fin du mois, mais au même moment, le président Yoon avait le commandant des forces armées au téléphone et lui ordonnait de forcer le passage, quitte à ouvrir le feu.
Les gens se sont précipités au Parlement au milieu de la nuit. Donc comment est-ce qu'ils ont fait ? Comme l'île était fermée à la circulation, ils ont laissé leur voiture n'importe où, le plus proche qui pouvait s'approcher. Et ils y sont allés en courant. Mais il y avait des gens qui étaient en pyjama. Et ça, c'est les citoyens qui ont repoussé les forces d'élite de l'armée. Mais en pantoufles, c'est extraordinaire. Il y a un courage physique dont ces gens ont fait preuve, qui devrait nous inspirer en Occident. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Ils ont quand même débarqué en hélicoptère sur le Parlement avec des flingues dont on sait maintenant qu'ils étaient chargés. Les gens qui bloquaient les entrées du Parlement, c'est des assistants parlementaires, c'est des secrétaires, c'est des petits bureaucrates. C'est des gens qui poussaient la photocopieuse pour essayer de bloquer l'entrée. C'est pas des gens qui sont formés au corps à corps, quoi. Moi, à chaque fois que j'y pense, ça m'émeut parce que j'aimerais que mon pays soit comme ça. Cette union populaire, ce courage et cette discipline collective, donc c'est un truc formidable. Le philosophe qu'il faudrait invoquer pour moi, pour comprendre ça, c'est Bergson. C'est-à-dire, il y a un élan vital en chacun de nous qui demande qu'à s'exprimer et dont on prend conscience seulement dans la lutte. Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est fait spontanément et les images qui ont essaimé dans les médias le montrent bien, mais c'est quelque chose de... Rien que d'en parler, à chaque fois que je le vois, c'est des choses qui m'émeuvent parce que le courage dont ces gens font preuve, et pas seulement en Corée, parce que si vous regardez les manifestants à Hong Kong, si vous regardez les manifestants en Birmanie, donc c'est la même chose. C'est la même chose parce que c'est cette discipline collective que vous avez en Asie qui donne aux gens les moyens, les outils pour se battre contre un gouvernement qui les oppresse.
Les soldats finissent par quitter les lieux dès lors que la bataille est perdue pour eux. Car à l'intérieur, les 191 députés présents votent à l'unanimité leur opposition à l'état d'urgence, un quorum suffisant pour faire majorité. Le président est désavoué de toutes parts, y compris par le chef de son propre parti. Le lendemain, à l'aube, il renonce à l'état d'urgence et ordonne à l'armée de se retirer des rues de Séoul. Aussitôt, les gens affluent à nouveau devant l'Assemblée nationale et réclament cette fois la démission du président. La plus grande intersyndicale du pays a d'ores et déjà appelé à une grève générale illimitée jusqu'à la démission du président, jugeant la tentative de loi martiale irrationnelle et antidémocratique.
Le gros du danger a été évité. Ça aurait pu tourner très mal le premier soir. Mais dans la mesure où ça a été tué dans l'œuf de suite, on a très vite compris qu'il avait perdu.
Immédiatement, les partis d'opposition déposent une motion de destitution contre Yoon Suk-yeol. Ils annoncent entamer une procédure judiciaire pour rébellion contre le président et les autres personnalités clés du gouvernement, de l'armée et de la police. Face aux craintes d'un nouveau coup d'État, l'armée rassure en promettant qu'elle n'obéira pas aux ordres du président et qu'elle suspend les trois hauts gradés qui ont participé aux opérations de la loi martiale. Jour après jour, l'ampleur de la folle tentative est révélée. Le président Yoon aurait ordonné avec l'application de la loi martiale l'arrestation d'opposants, y compris dans son propre camp. Cette révélation pousse son propre parti à accepter la procédure de destitution. Or, le jour venu, il refuse de se présenter dans l'hémicycle.
Je me suis rendu devant le Parlement, donc le samedi après-midi où ça votait pour destituer le président. Évidemment, il y avait une pression très forte de la foule pour essayer d'obtenir ça. Parce qu'il faut savoir qu'il fallait une majorité de deux tiers, c'est-à-dire 200 votes sur les 300 députés au Parlement coréen, et l'opposition à 192 voix. Donc il fallait rallier au moins 8 parlementaires du parti d'extrême droite présidentielle. Ce qui était très intéressant, c'est que comme ils avaient honte, ils n'osaient même pas se montrer, ils se sont cachés. Ils sont allés se cacher au lieu de voter non, par exemple.
Ce Seuls 195 députés votent la destitution. C'est donc un échec, et le président demeure au pouvoir malgré les 150 000 personnes réunies devant le Parlement qui brandissent des pancartes « Destituer Yoon » ou qui chantent « La Corée du Sud est une république démocratique ». Un professeur en grève affirme « Le président a déclenché un coup d'État, c'est inadmissible. Nous allons le faire tomber avec la force du peuple. Tant qu'il détient le pouvoir et s'y accroche par la force, les citoyens devront intervenir eux-mêmes. C'est ainsi que l'histoire de notre pays a été écrite. » Dès lors, ni l'opposition ni le peuple coréen ne lâchent l'affaire. Le Parti démocrate dénonce, peu importe la manière dont il tente de le justifier, c'est un deuxième coup d'État, illégal et anticonstitutionnel. Le parti présidentiel et le Premier ministre n'ont aucune autorité constitutionnelle et perpétuent une rébellion dangereuse. Dans la capitale, les rassemblements se multiplient. Les différentes corporations professionnelles annoncent qu'elles se joignent au mouvement. Les grands rassemblements statiques, festifs et animés se succèdent. Les camions transformés en scène diffusent les tubes de la techno coréenne sur lesquels sont entonnés slogans et mots d'ordre. Les écrans géants rediffusent les images du rassemblement. L'innombrable foule reprend avec le sourire et en dansant les appels à la démission du président, tout en brandissant des bâtons lumineux, des sabres laser et des sceptres clignotants popularisés par la K-pop.
Et donc vous aviez la foule qui chantait, mais il ne faut pas s'imaginer qu'ils chantaient l'international ou des trucs comme ça. Ils chantaient de la K-pop, hein. Donc il y a un côté très festif avec les codes de la pop culture qui fait un effet un peu particulier, un peu étrange quand on pense à l'atmosphère de danger physique. En Occident, vous avez quand même une séparation beaucoup plus forte des registres entre ce qui est sérieux et ce qui n'est pas sérieux. En Asie, c'est très déstabilisant de voir des gens qui risquent leur vie et qui en même temps chantent des chansons de l'équivalent coréen des Spice Girls. Le contraire du refoulement, c'est le défoulement. Comme c'est des gens qui ont rongé leurs freins face à un pouvoir détestable et méchant pendant des mois et des mois, bah évidemment, quand ça explose, ça prend une couleur un peu festive.
Le mois prochain, nous évoquerons toujours avec Christophe Godin la teneur de ces manifestations, la grande solidarité qui imprègne le mouvement et l'impact déterminant de la jeunesse, en particulier des femmes, qui prennent en quelque sorte leur revanche sur ce président. C'était le 7e épisode de l'Actu des Oubliés, merci de nous avoir écoutés. Nous remercions chaudement Christophe Godin, maître de conférence en sciences politiques à l'Université Kuk Min de Séoul, pour sa participation. Retrouvez sur notre blog toutes les sources de cet épisode. En termes de musique, vous avez pu écouter No Name de Yeezy, C8H11NO2 Club de Lucy Gang et Godok de Groovy Room. On se retrouve dans un mois pour suivre le mouvement politique et social qui secoue la Corée du Sud. D'ici là, beau début d'année et prenez soin de vous. Show me the money, spot be a 사람들은 내 스톰으로 봐 진위에 대해서 DM 근데 오늘 I can't lose 나도 번지고 난 사람 멋있게 비해 독해도 독해진 인생에 비해 Follow my life for the mission 내가 만약 뒤로 쓰러진 백 family Envelope 뿌리던 철부지 예상은 역배였지만 너 커버린 멋이야 처봐야 더블링 아 여기 있습니다 더블링 이승에선 세종대왕을 벌지만 전승에선 영라대왕을 세버린 Yeah we gon' rock this guy you might get previous 거절 많은 샷기 아마 나지 않아 밖에 Yeah, I started up in nothing, man. I got you beside shopping, rebel, mongrel, red, white, toppy, ho.